Mais d'abord, on va aller rejoindre notre journaliste Cogeco Nouvelles, Annie Guillemette, donc qui suit le procès d'Hugo Fredette. Un témoignage à fendre l'âme ce matin, Annie.
Effectivement, Bernard, un enfant qui avait 9 ans seulement au moment des faits. Comment ça s'est passé? C'est que cet enfant-là, le soir même du drame, a donné sa version des faits à une policière qui l'a rencontrée. Vous savez, dans ce genre de salle avec des micros et des caméras, au même endroit, en fait, où on interroge les suspects. Donc, on entendait ce qu'il disait. On a diffusé cette vidéo-là ce matin. Et le jeune, qui est maintenant un petit peu plus âgé, était dans une salle adjacente. Il a écouté ça. Et par la suite, ben, les avocats des deux parties, on peut lui poser des questions pour des détails, pour vérifier là, si on avait bien compris le contenu de sa première déposition qui avait été faite. Donc, je le répète, le soir des événements. Tout ça s'est déroulé, bien sûr, dans un climat un peu plus relax qu'habituellement, parce qu'on s'adresse à un enfant, on parle avec des mots d'enfant. Et lui a expliqué aussi qu'est-ce qu'il a vu. Il nous a expliqué qu'il jouait dans le sous-sol lorsqu'il a entendu des cris. Il est monté en haut. Il a vu la victime, Véronique Barbe, qui lui demandait d'appeler la police. Il a vu aussi l'accusé qui lui demandait de s'en aller. Par la suite, la victime est sortie à l'extérieur. Elle a crié à l'aide. Elle se plaignait de douleur. On n'a pas trop compris exactement ce qu'elle disait, mais on comprend qu'elle avait mal. Et ensuite, il a expliqué Hugo Fredette l'a ramené à l'intérieur de la maison. Et pour vous dire, hier, une témoin expliquait qu'il l'a pris en dessous des aisselles pour la traîner à l'intérieur. Mais lui, le garçon, a dit, il l'a pris comme pour lui faire un câlin. Il l'a ramené à l'intérieur. Et par la suite, il disait qu'il avait très peur, qu'il voulait s'en aller. Il avait peur que la victime meure parce qu'elle respirait très fort, que son ventre se gonflait beaucoup trop pour que tout aille bien. Donc, c'était vraiment très, très troublant de l'entendre expliquer ça. Par la suite, donc, on a pu lui poser des questions. Tout ça, je le répète, en visioconférence, parce que un enfant de cet âge-là, vous savez, c'est déjà troublant pour un témoin d'âge mûr de témoigner devant un tribunal. Donc, imaginez un enfant, on procède dans ce temps-là à des aménagements là, pour pouvoir rendre la chose plus facile. Mais il a quand même dû se plier au contre-interrogatoire de l'avocat de la défense, l'avocat d'Hugo Fredette, donc qui lui a fait mettre en perspective qu'est-ce qu'il voyait à partir de où dans la maison pour vérifier là, exactement ses dires, si on peut se fier à ce qu'il a raconté aux policiers. Donc, un témoignage vraiment particulier.
Annie.
Là, maintenant, c'est un contracteur qui raconte tout ça,
oui.
Sa version des faits, et le procès va suivre son cours.
OK, mais restons sur le témoignage de l'enfant, là. Dites-moi, comment ça s'est passé au moment du contre-interrogatoire entre l'avocat de Fredette et l'enfant de 11 ans?
Bien, écoutez, l'avocat de M. Fredette était avec lui dans la salle, donc pas dans la salle d'audience, là. Il était devant lui, assis autour d'une table, donc ça avait l'air vraiment d'une discussion. Il lui a montré des photos. « T'étais où quand tu nous dis que t'as vu telle chose? Est-ce que tu voyais vraiment bien? Est-ce que c'était loin? Est-ce que c'était proche? Est-ce que tu es certain d'avoir bien compris ce que la victime a dit? » Des choses comme ça. On l'a aussi questionné.
Est-ce que le juge a dû intervenir, Annie, est-ce que le juge, à un moment donné, a dû intervenir pour modérer les transports de l'avocat de la défense, ou est-ce que ça s'est fait correctement?
Écoutez, il n'y a eu aucune objection pendant le témoignage de l'enfant ce matin. La juge Myriam Lachance n'est pas intervenue à aucun moment. Ça a vraiment coulé assez bien, en tout cas mieux que beaucoup de témoignages d'adultes. Là, on a vraiment rendu la chose pas facile, mais au moins moins traumatisante pour cet enfant-là, qui avait l'air de se sentir, ma foi, assez bien autour de cette table. Il voyait une partie de la salle d'audience faite à signaler sur l'image que lui avait. Il y avait la juge, il y avait les greffières, mais il n'avait pas l'accusé et il n'avait pas les jurés non plus. Donc, il voyait vraiment l'essentiel de la salle d'audience. Il voyait pas que la salle était bondée. Bref, les choses qui auraient pu le stresser davantage avaient été sorties là, de son image. Il semblait quand même assez bien. Il faut dire, il a maturé aussi. Là, il a 11 ans maintenant, mais reste que c'est un traumatisme important là, d'avoir vu tout ça ce soir-là.
J'en reviens pas.
Ce qu'on a fait, c'est que...
J'en reviens pas.
C'est vraiment impressionnant. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait parler de lui un peu avant. Avant de rentrer dans le vif du sujet, les deux avocats et la policière aussi dans la déclaration lui ont fait parler des sports qu'il pratiquait, de ses amis, de qu'est-ce qu'il faisait autour de l'école, de ses matières préférées, tout ça un peu pour le mettre plus à l'aise.
Oui, oui.
Et par la suite, ben, on a sauté dans le vif du sujet, mais écoutez, on s'entend là que c'était des questions troublantes et ce qu'il a vu, c'est vraiment effrayant. Il a répété à plusieurs reprises, je ne voulais pas la voir mourir, j'avais peur qu'elle meure. Il a expliqué ça à plusieurs reprises là au fil des questions, à la fois dans la vidéo, dans sa déclaration, qu'avec les avocats par la suite. Donc vraiment un témoignage troublant aujourd'hui au procès de Hugo Fredette, qui lui, de son côté, prend des notes de façon presque compulsive. Il écrit sans arrêt et se lève à peu près jamais la tête pendant qu'il y a des gens qui témoignent là, contre lui.
Justement, est-ce qu'il a eu une réaction en attendant l'enfant? Parce que vous voyez la bande vidéo, et vous êtes dans la salle, donc vous pouvez observer ses réactions.
Oui, mais Hugo Fredette ne fait qu'écrire. Il entre le matin avec son cahier Canada, ses crayons. On lui retire ses menottes pour qu'il puisse écrire. Et pendant tout le procès, ça fait 2 jours maintenant qu'il y a des témoins, mais même avant, pendant la déclaration d'ouverture de la poursuite, il écrit, il prend des notes. J'imagine que c'est pour des discussions ultérieures avec son avocat pour préparer une défense, parce que vous savez que c'est comme ça que ça fonctionne. Là, présentement, on écoute la preuve de la couronne, de la poursuite, la preuve contre Hugo Fredette. Par la suite, lui aura droit de questionner certaines parties, de présenter même une défense s'il le veut, ou de soulever des trous dans ce casse-tête-là qu'on va faire pour essayer de comprendre ce qui s'est passé le soir du 14 septembre, dans les jours avant et aussi dans les heures après, parce que vous savez qu'Hugo Fredette a fait une longue cavale de plusieurs heures là, avant d'être arrêté en Ontario le lendemain.
Juste avant de vous laisser, dans la presse de ce matin, on rapporte que le petit garçon a vu un autre garçon près du corps de Véronique Barbe.
Effectivement. Il y a plusieurs enfants qui sont impliqués de près ou de loin dans toute cette affaire-là, à la fois du meurtre de Véronique Barbe et aussi du meurtre de Yvon Lacasse. On va y venir un peu plus loin dans le procès parce que c'est la deuxième victime alléguée dans ce procès-là. Et donc, tous les enfants bénéficient de la même protection du tribunal. On ne peut pas les identifier. Ça inclut le fait qu'on ne peut pas parler de leur nom, de leur affiliation, qui est le fils de qui est l'enfant de qui est tout ça. Donc, on parle d'enfants, de garçon, on peut dire garçon, fille, on peut dire l'âge, mais on ne peut pas aller plus loin. Mais je peux vous confirmer, Bernard, qu'il y a plusieurs enfants qui ont été impliqués dans cette affaire-là. Je crois qu'il y aura seulement un témoignage, ou en fait, qu'il y a eu seulement un témoignage d'enfant. En tout cas, c'était le plan de match de la Couronne qui a été présenté il y a quelques jours. Bien sûr, c'est sujet à changement. Là, on va voir dans les prochains jours ce que la poursuite va présenter.
Très bien, Annie Guillemette. Je dis, là, faut être faite forte.
Ça prend une carapace.
Vraiment, là. Merci.
Au revoir.
On s'en va rejoindre maintenant Conrad Laure, avocat criminaliste, ancien procureur de la Couronne, qui a déjà préparé des enfants, justement, qui devaient témoigner dans un procès criminel. Bonjour, Monsieur Laure.
Oui, bonjour.
Comment on fait pour protéger l'enfant? Parce que je me dis, écoute, de revivre ce qu'il a vécu, de voir ce qu'il a vu, comment on fait pour ne pas le marquer à vie?
En fait, la première étape, il faut revenir un peu en arrière, c'est comment on organise la rencontre du témoin, du jeune enfant, avant le procès, lors de la préparation. Surtout initialement, lorsqu'on a un témoin mineur comme ça, juste pour vous mettre un peu la table sur la procédure, les corps de police sont équipés avec des enquêteurs qui sont généralement formés pour rencontrer des témoins mineurs, des jeunes enfants qui, finalement, vivent des traumatismes. On a besoin de leur faire dire la vérité. Alors, généralement, les enquêteurs sont formés et sont généralement triés parmi certains enquêteurs. Alors, le procureur de la Couronne, la même chose. Les procureurs de la Couronne qui vont faire face à une preuve de témoins mineurs vont généralement avoir une formation et on va choisir des procureurs qui sont capables de gérer cette pression-là et surtout cette rencontre-là qui est souvent déchirant. Oui. Parce qu'au-delà du procureur de la Couronne, il y a des pères de famille, des mères de famille, des citoyens. Lorsqu'on a un jeune enfant comme ça qui vit un traumatisme, soit un blocage, ou peu importe, il faut être équipé. Alors, les bureaux de la Couronne sont équipés, je vous dirais, par des bureaux qui sont moins austères que le bureau classique. Il y a des jouets lorsqu'ils sont mineurs. Puis, on va amener l'enfant à nous parler de lui-même. On va tourner autour du sujet pour que l'enfant soit en confiance. Ça, c'est la partie préparation avant l'autorisation et le procès. Mm-hmm. La partie importante, c'est la cour. Parce qu'au-delà de ça, hein, la partie la plus traumatisante, en ce qui me concerne, c'est d'amener l'enfant à dire « tu vas venir témoigner devant le juge
hey. ».
Depuis 2006, le code criminel a été amendé, heureusement. Et le juge doit, sur demande, permettre de mettre en place les dispositifs d'aide au témoignage. Votre consoeur a extrêmement bien décrit ce que c'est, comment on se ressent lorsqu'on est autour de cette espèce de table-là en circuit fermé.
Mm-hmm.
Donc, généralement, le procureur de la Couronne va demander au juge, écoutez, c'est un mineur, je vous demande de mettre en place les dispositions. Aujourd'hui, presque tous les palais de justice sont équipés de télétémoignages, de caméras en circuit fermé, dans des salles préparées où l'avocat de la défense va être en présence du jeune ou de la jeune, mm-hmm. qui peut être accompagné d'une personne, évidemment, de confiance.
J'allais vous poser la question. Est-ce qu'un parent peut être aux côtés de l'enfant? Est-ce que son père ou sa mère peut l'accompagner?
Tant si longtemps que ce n'est pas une personne qui est témoin de la cause, vous comprendrez qu'on ne mettra pas une personne témoin de la cause à côté d'un autre témoin lorsqu'il témoigne.
C'est sûr.
Et que la personne se promet de ne pas intervenir. Hein, le danger, souvent, des parents et des gens, des accompagnateurs qui sont très proches de l'enfant, c'est qu'ils interviennent. Mais admettons qu'on a mis ça de côté, puis tout le monde sait quoi faire.
Oui.
Ce télétémoignage-là se fait en circuit fermé. Donc, l'accusé est dans une salle de cour, il y a une caméra, il y a un bureau, et l'ambiance qu'on a décrite, là, ça n'empêche pas, je veux bien le préciser, ça n'empêche pas l'avocat de défense de faire son travail sur la crédibilité, mais les avocats de défense sont très bien également formés pour qu'on n'entre pas dans un combat entre l'enfant et l'avocat de défense pour affecter sa crédibilité quand l'enfant est traumatisé. On y va avec une approche très pédagogique parce que, ultimement, c'est la recherche de la vérité que les gens veulent avoir. Donc, cette salle-là est très bien encadrée. Là où je pense qu'on va innover éventuellement, puis peut-être qu'on le fait, c'est de permettre à l'enfant, par exemple, d'avoir un chien accompagnateur, lorsque c'est un chien qui est thérapeutique, mais on va lui permettre d'avoir un objet fétiche, tant en son temps que ça ne touche pas à la cause. Alors, le code criminel le prévoit, et je vous dis qu'à moins que ça déconcerte l'administration de la justice, les juges vont l'accorder à 100%.
Il me reste une minute, Conrad Lan. Je vous repose la question, comment on s'assure que l'enfant n'est pas traumatisé par ça? Avoir livré un témoignage comme celui-là, est-ce qu'on peut s'assurer, je ne sais pas moi, est-ce qu'il y a moyen d'avoir une psychologue qui va à la maison dans les semaines qui vont suivre pour s'assurer que tout va bien? Parce qu'on peut penser qu'un enfant qui a vécu ça pourrait vivre avec des cauchemars épouvantables et l'amener à raconter à nouveau ce qu'il a vécu, ça peut ramener à la surface ces souvenirs-là. Donc, je pense que ça peut effectivement le marquer pour la vie.
Absolument. Vous savez, lorsque les témoins présentent des signes, évidemment, de situation de détresse. Il y a évidemment des services d'accompagnement dans les palais de justice, mais professionnellement, les enquêteurs, la couronne, la défense, évidemment, ce n'est pas nécessairement le contact privilégié qu'il va avoir avec le témoin pour comprendre tout ça, mais lorsque j'étais procureur de la couronne, je ne laissais pas partir un jeune ou une jeune comme ça sans avoir un suivi par la suite, juste pour simplement lui dire « Regarde, tu as bien fait ça, est-ce qu'on peut t'aider? » Il faut un minimum d'encadrement parce qu'il faut comprendre que le code criminel, l'esprit de la modification de la loi, c'est de faire en sorte que les gens vulnérables et les mineurs puissent participer au système de justice. Alors, le but, ce n'est pas de les effrayer puis qu'ils deviennent, évidemment, traumatisés à vie. Le but, c'est de les encadrer pour les accompagner. Alors, je vous dirais que ce travail-là, j'ai jamais entendu d'histoire vraiment négative. Peut-être que vos auditeurs en ont, mais moi, je n'en connais pas personnellement où on n'a pas eu de suivi lorsqu'on a eu besoin de suivi. Il y a un suivi qui est fait après l'événement. Ça, c'est clair.
Et j'imagine que les parents ont un rôle important là-dedans. Là, s'ils s'aperçoivent que l'enfant vit une certaine détresse, j'espère qu'ils vont trouver de l'aide, qu'ils pourront avoir de l'aide à ce moment-là pour aider l'enfant donc à passer au travers de ça. C'était très clair, Conrad Lan. Ça a été un plaisir de vous parler. Je rappelle que vous êtes un ancien procureur de la Couronne, avocat criminaliste maintenant. Merci.
Merci, bon après-midi. Merci, au revoir.
Dans un instant, l'alliance entre les policiers du Québec et ceux de l'Ontario pour mieux lutter contre le crime organisé.